Chrétien d'Orient, Sébastien de Courtois.
Bonjour, dans Chrétien d'Orient ce matin, c'est en Égypte que nous allons nous rendre et nous découvrirons aussi la communauté copte en France, celle de Paris, de ses deux diocèses, le nord et le sud de la France. Et je suis en compagnie du père Joseph Stéphanos ce matin. Bonjour père.
Bonjour Sébastien.
Alors vous avez vos obligations paroissiales, mais vous êtes aussi en charge des relations publiques de cette église copte de France, une institution que vous nous présentez tout à l'heure avec ces paroisses. Mais avant d'aller plus loin, présentons un petit peu quand même la communauté copte, la tradition copte, donc cette église d'Égypte qui a été convertie au christianisme très tôt. La tradition parle de l'apôtre Marc, une tradition qui s'est ancrée dans cette ville d'Alexandrie, qui était cette ville de rencontre entre la culture hellénistique et ce vieux monde pharaonique, et aussi l'Égypte étant la terre des premiers ermitages, de ces monastères du désert qui existent toujours. Voilà, beaucoup d'idées, beaucoup de points. Vous êtes en France depuis 38 ans, me dites-vous.
Oui, pour parler un peu de l'église copte et sa tradition, on commence bien sûr avec, si on suit l'ordre chronologique, l'Égypte a accepté très vite le message évangélique par l'apôtre Marc, selon la tradition. Très vite a été christianisé. L'Égypte tout entière a commencé à se convertir, toute la tradition pharaonique, y compris la langue aussi. Et donc, il y a la langue démotique, que c'est l'évolution naturelle du pharaonique. Et ensuite, pour exprimer le phonétique de démotique, on a utilisé les lettres grecques.
Alors c'est une langue que vous utilisez dans la liturgie toujours.
Exactement, mais on utilise un dialecte, parce qu'il y a au moins cinq. Celui qui est utilisé maintenant dans la liturgie, c'est le dialecte boérique. Et donc, ce qui est répandu maintenant dans toutes les églises. Ça, de point de vue linguistique. Après, pour la tradition, l'église copte fait partie des églises qu'on appelle les églises des trois conciles. Au 451, il y a l'Orient. Quand je dis l'Orient, c'est l'autre rive de la Méditerranée, parce que même le nord, l'autre rive, était après, plus tard, il était divisé en deux camps aussi, le monde grec et le monde latin. Mais moi, je parle de rive sud de la Méditerranée, et c'était l'Église copte à se retirer du dernier concile reconnu par ces églises orientales, l'Église de le concile de Chalcédon, 451, et ces églises qui contiennent les églises des trois conciles, il y a l'église copte, l'église arménienne, l'église éthiopienne, érythréenne et syriaque, et tous les syro-malabar et tout ce qui tourne dans le sphère des églises orientales.
Ce sont des églises aussi, je crois, que l'on appelle pré-chalcédoniennes, c'est-à-dire qui ne se reconnaissent pas dans cette tradition qui deviendra le concile de Chalcédoine. Alors les trois conciles dont vous parlez, c'est le concile de Nicée,
Éphèse et Chalcédoine.
Voilà. Donc l'Égypte se situe bien, je crois que c'était l'archevêque Cyrille à l'époque qui était dans cette joute intellectuelle, théologique, contre Constantinople à l'époque.
Exactement. Et c'est une bataille que pape Cyrille le Premier, en fait, ou Cyrille le Grand, ou aussi on l'appelle aussi le pilier de la religion. Donc, avec sa formule très très célèbre quand on a parlé de monophysite et miaphysite. Et nous, à tort, les Coptes sont reconnus à tort de monophysite. Il y avait à l'époque, il y avait une hérésie d'un moine d'Antioche qui s'appelait Etesh. Et en défendant cette hérésie, on a utilisé, vous savez, à cette époque-là, il n'y avait pas assez de termes des termes linguistiques pour utiliser pour s'exprimer. Et il y a aussi la politique qui a joué un grand rôle pour les sièges de la Pentarchie à l'époque. Et donc, on a mené une guerre de terminologique, en fait. Et mono veut dire un. Et mia veut dire un aussi. Mais mia, ça veut dire un composé. Quand on dit, par exemple, que le Christ a deux natures, mais les deux natures sont unies et forment une seule. Ça, c'est la mia. Et mono, c'est une seule nature. Donc, on nie complètement la nature humaine du Christ. Et ce n'est pas le cas des Coptes. C'était plutôt miaphysis, tout ça, tout sarcomène. Donc, le verbe de Dieu incarné.
Nous évoquions aussi, pour compléter ces éléments théologiques, une terre, donc cette terre égyptienne, qui a assisté à l'essor de ce qui deviendra le monachisme, c'est-à-dire les monastères. Et nous avons isolé deux traditions, la tradition de Saint Antoine et la tradition de Saint Pacôme. Le monachisme est toujours aussi vivant en Égypte.
Exactement. Il y a deux... vous savez, très tôt aussi, parce que il y a beaucoup d'endroits désertiques en Égypte, c'est pour ça que ça facilite un peu la vie monastique. Et le premier moine, selon la tradition, c'est Saint Antoine le Grand, on l'appelle parce que c'est le premier. Saint Antoine le Grand, il se séparait, il se exilait un petit peu dans le désert. Et commencer à pratiquer la prière et du travail pour se nourrir. Mais il était en ermitage, il était tout seul. Après, même s'il a des disciples après qu'il l'ont suivi, ils étaient chacun dans une grotte, tout seul. Et c'est pour ça qu'on l'appelle le père des moines ermites.
Et c'est Saint Pacôme, par contre, qui...
C'est différent. C'est le monachisme des cénobites.
Qui invente le monastère, d'une certaine manière, avec une règle.
Exactement, avec des règles. C'est des règles très connues jusqu'à nos jours. Ça s'appelle les règles pacomiques ou les règles de Saint Pacôme. C'est des règles de la vie cénobite.
Et comment va la vie dans les monastères actuellement en Égypte,
Elle est très vive parce que nous vivons maintenant dans un monde très changeant, beaucoup de défis, et c'est pour ça que les chrétiens d'Égypte s'approchent plus vers l'Église. On trouve le refuge dans l'Église, dans les monastères. Ça me rappelle un peu ce qui s'est passé au début de la période arabe, la conquête arabe. Quand un chrétien copte, il avait trois choix. Soit il se convertit, soit il paye la jizya.
Donc il l'impôt pour les non-musulmans.
C'est la jizya. C'est l'impôt pour les non-musulmans ou il sera tué. Donc il y a beaucoup de coptes, des fellahs en fait, qui se sont réfugiés dans les monastères pour fuir la jizya. Et pour fuir la mort et garder aussi la langue. Donc la langue copte, elle était préservée plus dans les monastères, pas seulement la langue, mais aussi la tradition, les hymnes, les textes patristiques. Donc les monastères ont joué un grand rôle dans l'Église copte. C'est pour cela que l'Église copte est très marquée par sa tradition monastique. On est très marqué par ça. Et vous trouvez, par exemple, il y a des choses qui distinguent l'église copte. Par exemple, on a le livre de la prière, par exemple, ce qu'on appelle Agapé. C'est le même livre utilisé pour les moines, utilisé pour les laïcs. Vous voyez, à tel point qu'on est marqué par l'église copte. Les coptes aussi, ils sont marqués par les façons de vivre monastiques. On est très humble, modeste, même dans sa vie quotidienne. On est modeste, le peuple, c'est un peuple très pacifique, même soumis. On n'a jamais eu un président ou un empereur ou un roi copte. On est toujours gouverné par un étranger.
Nous sommes en compagnie du père Joseph Stefano ce matin dans Chrétien du Rhin. Donc nous sommes en Égypte et maintenant nous allons traverser la Méditerranée pour venir jusqu'en France. Alors j'évoquais tout à l'heure votre longue présence parmi nous depuis 38 ans. Donc vous êtes responsable des relations publiques. J'ai reçu un communiqué de presse annonçant il y a quelques mois la création d'un diocèse pour le nord de la France. Et j'ai été étonné d'un chiffre, c'est 200 000 coptes égyptien, entre guillemets, parce que c'est quand on répète, copte veut dire lui-même égyptien, donc c'est une redondance. J'étais étonné par ce nombre qui est important. Et vous me dites, en plus, qu'il ne cesse d'augmenter depuis 2011.
Permettez-moi d'abord de vous donner une petite introduction aussi historique de la relation entre les coptes et la France. Ça remonte au XVIIIe siècle, au temps de la campagne française en Égypte. À cette époque, il y a un prêtre copte qui s'appelle Yohanna Shiftishi. Ce prêtre copte, il était ami à Champollion. Et c'est lui qui a enseigné la langue copte à Champollion. Champollion a envoyé une lettre à son frère en France pour lui dire qu'il apprend le copte et il aimerait bien qu'il parle le copte couramment et même penser en copte. Il était fasciné par la langue copte.
Alors fasciné, j'imagine, parce que c'est elle qui était le conservatoire de cette langue pharaonique.
Exactement, exactement. Et à travers la langue copte et démotique, il a pu déchiffrer la pierre de Rosette. Et donc, il était accompagné par le prêtre Yohanna Shiftishi. Yohanna Shiftishi, au fil du temps, il est devenu l'interprète de la compagnie française. Et ensuite, il est venu aussi ici en France et il s'est engagé à être interprète ici. Et il a célébré une messe à l'église de Saint-Roch, à la rue du Faubourg Saint-Honoré, dans le premier arrondissement.
Saint-Roch.
Saint-Roch.
Donc vous êtes d'une certaine manière le descendant de ce pionnier de la présence copte à Paris.
Exactement.
Alors voilà, une dizaine de paroisses. Quelle est la réalité de cette communauté copte ici?
Ensuite, à partir des années 60, on a commencé...
1960,
oui. On a commencé, il y a les premiers coptes qui sont arrivés ici. Et en fait, c'était pour les études. C'est les premiers étudiants qui sont venus ici. Et de temps en temps, ils ont eu le passage d'un évêque qui célébrait les offices, un prêtre. C'était pas systématique, c'était pas vraiment régulier, mais on a eu quand même de temps en temps des passages du clergé. Ensuite, le pape Cyril VI a eu l'idée d'envoyer régulièrement, une fois par mois, un prêtre, un moine, en fait, qui venait pour célébrer les offices. Ensuite, il y avait le pape Shenouda qui approuvait l'ordination par les deux évêques. À l'époque, il y avait deux évêques coptes qui se sont intronisés pour la France. Il y avait un qui était néerlandais, Amba Marcos, et un Français qui s'appelle Amba Athanasius. Et tous les deux, ils ont ordonné un prêtre copte qui s'appelle Abuna Girgis. C'est la forme arabe de Georges. Et lui, depuis l'année 1977, il est devenu le prêtre copte en France. Et jusqu'aux années fin des années 80, le pape Shenouda a envoyé deux moines. Et ensuite, on est devenu plus nombreux. Il y avait des familles et on a commencé à fleurir un petit peu. Et on finit maintenant par avoir 10 églises sur Paris et la région parisienne. On a 15 prêtres, entre moines et prêtres mariés.
Et vous avez même un monastère, j'ai vu, dans Lyon.
Oui, à côté d'Auxerre, à Ronchères. Il y a deux moines là-bas, deux moines d'Égypte. Novembre dernier, il y a deux ans, le pape actuel, Amba Tawadros, qui lui, il a désigné un prêtre itinéraire pour la France. Et il a nommé un évêque itinéraire pour la France, que lui, il est venu pour servir ici. Avant, il était en Autriche, à Vienne. C'est un moine du monastère Amba Bishoy. Il est linguistique, il connaît plusieurs langues européennes. Le français, il n'a pas à l'époque maîtrisé bien le français. Il a enseigné aussi au séminaire de Vienne. Et il était nommé il y a deux ans. Bon.
Alors
en 2015.
Une dizaine de paroisses pour le nord de la France et pour le Midi. Alors vous êtes, il y a un diocèse aussi pour le Midi qui est en lien avec la Suisse, je crois. Combien de paroisses pour le sud de la France?
Il y a à peu près 6.
Donc paroisses. Ça fait 16 paroisses pour la France entière. C'est beaucoup.
Oui, oui, oui. Dernièrement, il y avait une évolution très rapide de la communauté copte depuis 2011, après le printemps arabe.
Voilà, alors il faut rappeler un petit peu l'actualité, effectivement, cette vague de réfugiés qui arrive de Méditerranée orientale, ben aussi touche l'Égypte, bien entendu, et parmi eux, des coptes, j'imagine. Vous avez vu beaucoup de compatriotes arriver?
Ah oui, c'est surtout les coptes, parce que, vous savez, pendant l'année où les frères musulmans étaient au pouvoir, c'était une année très difficile pour les coptes. Les coptes, en fait, tous les Égyptiens musulmans et coptes ont payé un prix fort, mais les coptes toujours payent le double. Il y avait effectivement beaucoup de compatriotes coptes qui sont venus ici par le bateau, surtout par le bateau de façon clandestine. Et des vagues, une grande vague de, on était face à une vague vraiment très importante d'arrivée des coptes et on a fait tout ce qu'on peut faire pour les aider. Il y a aussi des associations caritatives françaises qui ont beaucoup aidé dans ces domaines.
Et ce sont des gens qui ont le réflexe de vous contacter en arrivant, qui s'orientent vers l'église un petit peu pour savoir comment s'intégrer, comment fonctionne notre pays.
Il y a ça, mais il y a aussi les associations que je viens de signaler. C'est eux qui nous ont envoyé souvent des coptes parce que c'est eux qui dirigent ces gens-là.
Et vous, en tant que prêtre, vous avez cette responsabilité de les accueillir, de les guider spirituellement?
Exactement, oui.
Et c'est quelque chose qui n'était pas vraiment prévu à l'origine dans votre...
Non, c'était pas prévu, mais je trouve que c'est une façon aussi d'évangélisation. Parce que ces gens-là, même si, entre guillemets, le hasard qui les a amenés ici, mais ces gens-là, ils viennent avec leur foi chrétienne, leur foi copte. Ils sont très attachés à leurs valeurs, chrétiennes. Et c'est pour ça que moi je trouve que c'est important d'avoir des gens qui prêchent le message évangélique ici en France parce qu'on a besoin.
Qu'est-ce qui fait selon vous la spécificité de la tradition égyptienne du monde copte?
La simplicité. Le peuple copte, ce n'est pas un peuple savant. On ne cherche pas à trop analyser et tomber vraiment dans le chemin de la science théologique et terminologique, tout ce qui suit. C'est un peuple très simple, très pieux, qui sont vraiment dans la prière, la profondeur de la prière en simplicité, vraiment en toute simplicité. Vous voyez les 21 jeunes qui étaient égorgés en Libye, c'est des jeunes qui ne savent même pas lire et écrire.
On se souvient de ces images épouvantables.
Oui. Vous pouvez imaginer que ces gens-là, ils n'ont jamais lu l'Évangile. Parce qu'ils ne savent pas lire et écrire. Mais rien que pratiquer, aller à l'église, entendre tout le temps l'Évangile, les hymnes de l'église, la messe, tout le texte rituel, ils ont appris plein de choses. Ils ont pris la foi dans le biberon. C'est pour ça que ces jeunes-là, malgré que c'est des jeunes très simples, mais ils étaient vraiment, ils ont fait ce que les scientifiques n'arrivent pas à le faire. Vous voyez, ils étaient très attachés au message évangélique et c'est une foi vraiment ardente. Ils n'ont pas bougé jusqu'au dernier souffle de leur vie en réclamant Jésus.
Qu'est-ce qui vous manque de l'Égypte à Paris ?
C'est ce que je viens de dire. La simplicité de la foi. Ici, on a appris de chercher à tout comprendre, à tout analyser, tout. Je ne regrette rien dans ma vie, mais j'aurais préféré être simple. La simplicité est vraiment très appréciée dans la vie.
D'Orient, ce matin, je recevais le père Joseph Stéphanos de l'église copte de France. Merci père.
Merci Sébastien.
Je remercie Dany Journeau, Anne-Catherine Lochard et Jean-Michel Bernot pour la réalisation de cette émission que vous pouvez retrouver en podcast ou balado diffusion. Bon dimanche à tous.